Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition des Tribunes de la Presse. Deux thèmes seront au centre du débat, à savoir, après la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier par la CENI, plusieurs missions d'observation dénoncent les manques de transparence lors de la compilation et la transmission des résultats des votes. Enfin, Léon Kengoua Dondo, Antipas Mboussa Nyamwisi et Adam Bombolé, 3 des 11 candidats présidents de la République, demandent l'annulation des élections du 28 novembre dernier compte tenu des irrégularités constatées. Ils proposent des concertations politiques pour la mise en place d'un gouvernement de transition ainsi que l'accompagnement de la communauté internationale pendant les nouveaux processus. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Marcelin Mandouakila, il est directeur des rédactions au quotidien Forum des As. C'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Marcelin Mandouakila.
Bonsoir.
Israël Moutala, il est journaliste au magazine économique Géopolis. C'est un magazine qui paraît aussi ici à Kinshasa. Israël Moutala, bonsoir.
Bonsoir Guy.
Et Magloire Paloukou, il est directeur général des radios Kivu 1. C'est une radio qui émet depuis Goma au nord Kivu. Bonsoir Magloire Paloukou.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les amis qui sont là-dedans, confrères.
Rapport des missions d'observation sur les élections en République démocratique du Congo, ainsi que la proposition d'annulation de ces élections et la mise en place d'un gouvernement de transition. Écoutons cette revue de presse que nous présente Samuel Katiak pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Bonsoir. Processus électoral en RDC. Le cardinal Laurent Mosengo est catégorique. Les résultats de la CENI ne sont pas conformes à la vérité ni à la justice. Titre Le Phare. Selon ce journal, le prélat catholique dit avoir des difficultés à comprendre les graves erreurs que la CENI a commises dans son travail et dans la publication des résultats provisoires transmis à la Cour suprême de justice. Malgré cela, Laurent Mosengo appelle l'opposition à recourir aux voies des droits, renseigne le palmarès. La tempête des tropiques va même plus loin en affirmant que l'archevêque de Kinshasa Mosengo est même d'accord pour le recomptage des voix réellement exprimées dans les urnes par les électeurs congolais lors des derniers scrutins. Ce quotidien kinois relève qu'en plus du cardinal Mosengo et du centre Carter, c'est au tour de la mission d'observation de l'Union européenne de relever des entorses chaotiques dans la compilation et la transmission des résultats de vote à Kinshasa, à l'Équateur, au Sud Kivu et au Katanga. Le potentiel, quant à lui, pense que Laurent Mosengo, par cette déclaration au sujet des résultats des élections de 2011, vient de jeter de l'huile au feu. Pour l'avenir, s'étant servi des données manipulées, le cardinal Mosengo a menti en induisant délibérément la communauté internationale en erreur. Pour couper court à tout, la CENI rejette les critiques du cardinal Mosengo et du centre Carter, constate la manchette. Restant dans le même registre, la Référence Plus, parlant de la crise post-électorale en RDC, pense que la médiation internationale peine à trouver un compromis. Ce journal cite International Crisis Group, qui estime qu'il faudrait une contre-expertise des résultats. Forum des As relève qu'au terme d'une réunion tenue à la primature entre le gouvernement et les corps diplomatiques, le doute est enfin dissipé au sujet des résultats des élections en RDC. Selon notre confrère, en vue de corriger les irrégularités enregistrées, quelques membres de la communauté internationale offrent leur assistance technique à la centrale électorale congolaise. Parlant de la requête de Vital Kamerhe à la Cour suprême de justice, le potentiel la juge recevable mais non fondé selon le ministère public.
Merci Samuel Katiak, un petit commentaire par rapport à l'actualité. Marcelin Mandouakila, vous êtes directeur des rédactions quotidien Forum des As, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la clôture hier jeudi de la session ordinaire dans les deux chambres du Parlement.
Oui, on a assisté à cette clôture, mais malheureusement on n'a pas pu examiner le budget. Alors que c'est une session budgétaire par excellence, la session ordinaire de septembre. Mmh. Évidemment, les députés, les sénateurs, tous ils étaient embarqués
par
la fièvre électorale. Mmh. Et ils ne se sont pas occupés de ça. Et en plus de ça, le gouvernement non plus n'a pas déposé son projet à temps. Donc en fait, pour une session, ça n'en était pas une en tout cas.
Et c'est la dernière session pour l'Assemblée nationale.
Effectivement, c'est la dernière, donc on a raté les courses.
Israël Moutala, vous êtes journaliste au magazine économique Géopolis, un magazine qui paraît ici à Kinshasa. L'autre actualité, c'est le verdict attendu ce vendredi à la Cour suprême de justice dans l'affaire Vital Kamerhe contre la CENI, contre le candidat numéro 3 Joseph Kabila, autour du contentieux électoral. Il y a même le quotidien Le Potentiel qui a titré aujourd'hui « Requête de Vital Kamerhe à la Cour suprême de justice, recevable mais non fondée selon le ministère public ».
Venant du ministère public, ce n'est pas du tout étonnant. Le ministère public est la partie de la justice qui est la plus inféodée au pouvoir parce que il répond du principe de la subordination. Il est tout le temps actionné par le ministre de la Justice. Dans ce procès, la Cour suprême de justice joue gros. Parce que, de toute manière, dans l'opinion nationale et internationale, il est clair que le Congo ne dispose pas encore d'une justice indépendante. Est-ce que va-t-elle se servir de ce procès pour s'émanciper du pouvoir exécutif? Les gens en doutent. Rien qu'à voir ce qui s'est passé hier, où le président de la Cour constitutionnelle, ici, qui est la Cour suprême, avait exigé d'abord que les deux protagonistes, c'est-à-dire que l'accusé et l'accusateur soient dans la salle. Quand l'accusateur est arrivé, voilà, on a demandé maintenant que l'accusé soit là. Ça veut dire que le président Kabila, le président a estimé que non, une procuration spéciale pouvait suffire. Mais alors, si une procuration pouvait suffire, pourquoi justement avait-il exigé une présence physique de Vital Kamerhe qui pouvait aussi donner à ses avocats une procuration spéciale? Donc tout ça, ça a été le premier clash qui a déclenché presque, le boycott de ce procès par les avocats de Vital Kamerhe. Donc la Cour suprême de justice dans cette affaire joue gros. Elle va soit s'enfoncer davantage ou soit essayer un peu de sauver les meubles.
Merci Magloire Paloukou, vous êtes directeur général des radios Kivu 1, c'est une radio qui émet depuis Goma au nord Kivu. Quelle est l'actualité dans cette ville à Goma? L'actualité qui est à la une?
À Goma, l'actualité qui est à la une, c'est bien sûr le procès qui a commencé en chambre foraine à la prison de Mounzenze ici à Goma, des opposants, des membres de l'UDPS et de l'UNC. Vous avez compris, qui ont tenté de marcher pour protester contre les résultats des élections ici cette semaine à Goma. Et bien sûr, le procès a commencé avec des accusations et des discussions entre le ministère public et les avocats, bien sûr, accusations de divulgation de faux chiffres ou troubles à l'ordre public ou incitation à la révolte. Et c'est ça qui est d'actualité aujourd'hui ici dans la ville de Goma.
Merci. Notre premier thème de ce soir, après la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier par la CENI, plusieurs missions d'observation dénoncent le manque de transparence lors des compilations et la transmission des résultats des votes. Tour à tour, le centre Carter, l'archevêque de Kinshasa, la mission d'observation de l'Union européenne et le sous-secrétaire adjoint du vice-secrétaire d'État américain aux affaires africaines émettent des doutes quant à la crédibilité que l'on pourrait accorder aux résultats provisoires publiés par la CENI. Plus de détails avec Kelly Nkouté.
Dans une déclaration publiée samedi dernier, la mission d'observation électorale du Centre Carter estime que les résultats de l'élection présidentielle annoncée par la Commission électorale nationale indépendante manquent de crédibilité. Selon ces observateurs, la qualité et l'intégrité de la compilation des résultats ont varié de la bonne application des procédures à des irrégularités graves. Le Centre Carter note une désorganisation dans la réception des plis des résultats à Kinshasa et à Lubumbashi. Le rapport du Centre Carter indique que les résultats provisoires annoncés par la CENI contiennent plusieurs données qui manquent de crédibilité. Cependant, la déclaration de cette ONG ne remet pas en cause, je cite, l'ordre des résultats des candidats tels qu'annoncés par la CENI. Fin de citation. Après le centre Carter, c'est au tour de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Moussengo, de se prononcer à ce sujet. Il indique à l'analyse des résultats publiés par la CENI, il y a lieu de conclure qu'ils ne sont ni conformes à la vérité ni à la justice. L'archevêque de Kinshasa demande au contestataire affaires éventuelles de recourir aux voies de droit et de ne pas se livrer à la violence, expliquant que les résultats sont provisoires et doivent être confirmés par la Cour suprême de justice. Un autre rapport est celui de la mission d'observation de l'Union européenne qui a déploré le manque de transparence et les irrégularités de la collecte à la publication des résultats donnant la victoire à Joseph Kabila et rejeté par l'opposition.
Réagissant au rapport de plusieurs missions d'observation dénonçant les manques de transparence des résultats de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier, le gouvernement congolais dit reconnaître les différentes erreurs qui ont entaché le processus électoral en République démocratique du Congo. Lambert Mende les met sur le compte de la jeunesse et de l'inexpérience de l'administration électorale mise en place dans des conditions difficiles. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, ces dysfonctionnements ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats électoraux tel que publié récemment par la CENI. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, est au téléphone de Samuel Kachak.
Tous ces constats ont déjà été faits par nous-mêmes au niveau du gouvernement. Le président de la République lui-même, évaluant le processus électoral, a parlé d'erreurs, de fautes qui ont pu être commises. La plupart de nos observateurs nationaux l'ont fait. C'est des choses qui sont réelles. La première chose pour nous, c'est que on serait étonné qu'il en ait été autrement avec la jeunesse, l'inexpérience de notre administration électorale qui a été mise en place dans des conditions qui ne permettent n'était certainement pas qu'ils puissent assurer des performances tout à fait comparables à celles des administrations beaucoup plus rodées. On a empêché à cette commission d'être mise en place à temps. On l'a empêché de travailler dans une atmosphère de sérénité. Donc il est normal qu'il y ait des couacs pour sa première expérience. Mais ces dysfonctionnements, ces irrégularités n'ont pas été de nature à remettre en cause les résultats tels qu'ils ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Sinon, nous sommes prêts absolument à encourager la Commission à remonter la pente. Dans quel pays n'y a-t-il pas de dysfonctionnement dans une nouvelle administration qui se met en place ?
Marcelin Mandouakila, les rapports tombent l'un après l'autre et tous révèlent le manque de transparence lors de ces élections. Comment vous analysez cette situation ?
Effectivement, il y a un problème de crédibilité avec les élections lorsqu'on se base sur les différents rapports des missions d'observation électorale étrangère. Ça sous-entend qu'il y aurait eu des fraudes. Or ça tend à nous ramener en arrière, parce qu'après la première expérience en 2006, on devrait être en mesure en 2011 d'améliorer la manière d'organiser les élections. Parler de la jeune administration, de la commission, je ne sais pas, jeune par rapport à quoi. Où sont passés tous ceux qui étaient là, tous ces agents qui étaient là en 2006? On les a mis de côté, on en a pris d'autres, donc on n'avance pas. Parce qu'on devrait corriger en 2011 de manière à avoir des élections plus ou moins parfaites en 2016. Mais on a l'impression qu'on a quelque peu régulé par rapport à ça. Et je pense aussi que la classe politique, quelque part, est responsable. Dans la mise sur pied de la CENI, les gens ont traîné les pas, que ce soit la majorité et l'opposition. Donc on a laissé très peu de temps à la centrale électorale de se mettre sur pied et de commencer à préparer les élections. Et maintenant, l'autre type de problème que pose le rapport
des missions d'observation.
Des missions d'observation par rapport aux irrégularités, c'est qu'on risque de tomber dans une sorte de crise de légitimité. Etienne Tshisekedi est convaincu qu'il a gagné la présidentielle et qu'on essaye de lui voler sa victoire. Donc, quelque part, les élections sont loin de régler la question de légitimité du pouvoir. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On tend plutôt, si on n'est pas déjà là-bas, dans une crise politique majeure.
Israël Moutala, plusieurs missions d'observation, commençons d'abord par le centre Carter, qui, dans sa déclaration faite samedi dernier, conclut que les résultats publiés par la CENI le 9 novembre dernier manquent de crédibilité. Il évoque notamment la perte de beaucoup de plis contenant des résultats des bureaux de vote.
Oui, la question de perte de plis, ils l'ont dit, elle a été essentiellement aussi remarquée, selon leur rapport, dans les régions, dans les zones où l'opposition est présumée populaire ou effectivement populaire, ce qui pose un problème réel. Mais avant de commenter le différents rapports, j'aimerais revenir un peu sur les propos du ministre Mendé. C'est quand même extraordinaire. Nous sommes un pays, on a fait un processus en 2005, en 2006. Il fallait absolument que celui-ci soit exempt de tout reproche, qu'il soit meilleur que celui que 2006. Or, nous sommes loin de ce compte-là. Et la responsabilité doit avoir... Nous sommes dans un pays où on dilue les responsabilités. Quelqu'un doit être responsable.
Mais ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est que tout le monde dénonce aujourd'hui, n'est-il pas très visible au vu de ce que le ministre Lambert Mende a évoqué, au vu de ce que Marcelin Mandokila a évoqué, les conditions difficiles dans lesquelles la CENI a été mise en place?
Je suis parfaitement d'accord. Et Marcelin a raison de dire qu'on n'a pas su faire mieux qu'en 2006. Mais qui emporte la responsabilité? Chaque fois, les Congolais n'éludent pas la question cruciale de la responsabilité. Une société ne va pas de l'avant parce que la responsabilité est diluée. Ici, la responsabilité, c'est le gouvernement qui doit emporter seul ses dispositions. La jeunesse de la CENI, qui a bloqué justement la liquidation d'abord de l'ex-CEI? C'est le gouvernement. Qui n'a pas mis les fonds à temps? Qui a commencé les décaissements plusieurs années avant? Ça veut dire que dès qu'ils étaient au pouvoir en 2007-2005, ils devaient déjà chaque année, jour après jour, commencer à préparer les élections. Ils ont croisé les bras. Ils n'ont attendu que la lettre de la communauté internationale en 2010 vers la fin, qui leur a intimé l'ordre d'organiser les élections pour s'activer.
Mais il y avait un parlement qui était censé contrôler ce gouvernement.
Justement, ce parlement a une majorité, justement. Nous sommes dans une crise de légitimité aujourd'hui, bel et bien dans une crise de légitimité, parce que le processus électoral actuel a été lamentablement organisé. Pourquoi? Parce que la classe politique s'est croisée les mains au lendemain justement de l'accession au pouvoir. Et c'est dommage, et c'est dommage. Pourquoi n'apprenons pas justement de nos erreurs passées? Et quand j'entends, excusez-moi, quand j'entends Mendé dire par exemple aujourd'hui des erreurs, c'est toujours les mêmes excuses, parfait. Des erreurs inhérentes à la nature humaine, jeunesse et expérience d'administration, des couacs. Et il dit, par exemple, reprenant les propos de Montsengo, que l'on jette de l'huile sur le feu. Mais il faut poser la question à Mendé. Qui a allumé le feu? Ce n'est pas justement, c'est pas le gouvernement qui a allumé le feu, justement, au lieu de préparer un processus dans toute la sérénité et en donnant toutes les garanties de transparence et de crédibilité, en mettant justement les fonds à temps, un personnel qualifié, une logistique. Non. Mais ils nous avaient d'abord enfermés dans des questions de, comment dirais-je, polémiques, voulant même à une certaine époque renvoyer la MONUSCO, disant qu'ils avaient les capacités eux-mêmes logistiques d'organiser des élections. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons un pays aux dimensions continentales et on voit que le défi des élections n'a pas su être tenu.
Merci Magloire Paloukou. Lundi, c'était autour du cardinal Laurent Mossengo qui a déclaré que les résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo ne sont conformes ni à la vérité ni à la justice. Et comment vous analysez cette déclaration de l'évêque de Kinshasa?
Je pense que d'abord, c'est Mossengo lui-même qui n'est pas véridique, ni juste avec sa propre personne, avec ce qu'il incarne comme divinité, entre guillemets, comme pouvoir dans l'Église. Est-ce que Mossengo devrait le dire comme cela? Est-ce que Mossengo ne pouvait pas être l'Église au milieu du village? Aller conseiller peut-être au pasteur, négocier cela au lieu que ce soit par la voix de la presse. Je pense que Mossengo est moins crédible que même la CENI elle-même, puisque est-ce que Mossengo a commis les erreurs en lisant ces chiffres ou il a donné des chiffres qu'il sait et de quelle manière? Puisqu'il avait quand même la possibilité de présenter ces chiffres-là sans qu'il y ait tambour, trompette qui accompagne cela, qui se donne le sonneur, le donneur de leçons de la République. Je pense que Mossengo et la CENI, il n'y a personne qui est crédible pour nous donner une matière à réflexion, une matière qui soit la base même de notre identité, de voir le propre qu'on peut avoir dans une élection.
Magloire Paloukou,
a toute une histoire.
Magloire, Oui, quel est le péché que Mosengo a commis du fait d'avoir dit c'est que ses témoins ont vu sur terrain? Quel est le péché que lui a commis?
Le péché, c'est de ne pas respecter la loi de son pays et de divulguer des chiffres officiellement sans avoir la permission, l'autorisation, ni le pouvoir. Quel est le pouvoir que la Constitution donne à l'Église ou au cardinal, à l'archevêque de Kinshasa, pour corriger publiquement la FMI, même si ça pourrait être vrai, même si ça peut s'avérer vrai, mais quelle autorité a Mosengo pour donner des chiffres personnels qu'il a, qui ne peut pas amener dans un consensus, dans une place où cela peut se faire corriger sans qu'il ne se fasse la vedette personnelle? C'est ça la question qu'on peut se poser. Mosengo est-il crédible en suivant toute son histoire, lui aussi? Ce n'est pas lui qui va donner quand même la leçon, ce n'est pas la voie autorisée, ni l'exemple à suivre.
Malheureusement, il n'est pas là, il n'est pas présent pour se défendre. Oui, je disais, le cardinal Mosengo n'est pas ici présent pour se défendre. Marcelin Mandouakila, la mission d'observation électorale de l'Union européenne en République démocratique du Congo, dit pour sa part que ces élections ont un problème de transparence et que les résultats donnés par la CENI ne correspondent pas avec ce que ces observateurs ont vu sur terrain.
Moi, je crois que le problème majeur, c'est qu'on a évité, peut-être par peur d'avoir une guerre civile, on a évité de faire comme cela s'est fait en Côte d'Ivoire. S'il y avait une structure pour la certification des résultats, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Cette structure a existé en Côte d'Ivoire, mais cela n'a pas empêché les violences qui ont suivi la publication des résultats.
Oui, c'est certainement ce qu'on a pu éviter. Mais moi, je crois qu'au lieu de passer le temps à essayer de dénuder le cardinal Mosengo, on doit se poser des questions sur le fond, pas sur la forme. Ce que Mosengo dénonce, c'est ce que dénonce Carter, c'est ce que dénonce la mission d'observation de l'Union européenne. Donc maintenant, il faut s'atteler au fond. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce qu'il y a eu vraiment des irrégularités ou des dysfonctionnements, comme parle le ministre Mende? Et c'est ça qui doit nous intéresser pour corriger. Mais se mettre à vilipender tous ceux qui émettent un son de cloche contre elle, moi je ne crois pas que cela puisse nous aider à avancer.
C'est pas le statut de pasteur du cardinal Mosengo qui pose problème, qui dérange un peu?
Mais justement, quand c'est le cardinal qui le dit, nous devons prendre ça au sérieux. Si vous et moi nous l'avions dit, on dirait, écoutez, ces gens ont été soudoyés. Mosengo, ce n'est pas n'importe qui. C'est vrai que pour l'Église catholique, ici, la voie autorisée, c'est la conférence épiscopale nationale. Mais Mosengo, en tant que cardinal, ses titres honorifiques, ça voudrait dire que cet homme-là, quand il prend un minimum de précautions. Il faut maintenant aller dans le fond du problème. Mais pourquoi on ne s'attaque pas de la même manière au centre Carter ou bien à l'Union européenne dans son ensemble? Il y a un problème qui doit nous interpeller et nous devons chercher à améliorer pour qu'en 2016, on fasse moins d'erreurs. Et lorsque les ambassadeurs proposent l'assistance technique étrangère à la CENI pour les législatives, c'est pour corriger ce qui est un problème. Ça doit nous interpeller, ça aussi, je crois. Donc, moi, je pense qu'on doit passer à l'essentiel, tirer les leçons de ce qui se passe, aller dans le fond du problème, parce que ce ne sont pas les dernières élections que nous organisons. Nous serons là encore en 2013, en 2012 et en 2016.
Israël Moutala, cette mission d'observation de l'Union européenne, dit avoir constaté, par exemple, que plusieurs sites de vote, les témoins ont été empêchés d'assister aux opérations. Et pourquoi, à votre avis, de tels cas n'ont pas été dénoncés pendant que les opérations étaient en cours? Peut-être que ça aurait changé quelque chose.
C'était difficile parce que les observateurs internationaux, d'abord, ils ont un travail de collecte d'informations, ils se réunissent, ils font des rapports, ils délibèrent, et puis bon, ils prennent le rapport, ils envoient à leur hiérarchie pour être visés, et puis bon, ils publient. Donc il y a plusieurs procédures, ils ne pouvaient pas le dire tout de suite. Ça, c'est peut-être un journaliste qui pouvait le remarquer, le dire tout de suite. Mais eux, qui ont une certaine procédure pour rendre public leur rapport, ils ne le rendent pas tout de suite sur le tas. Ça, c'est filtré par plusieurs.
Donc, cela voudrait dire qu'ils ne publient pas tout ce qu'ils voient. Ils sélectionnent les informations à publier, c'est ça?
Évidemment, ils sélectionnent parce que, justement, ils savent que leur rapport, vous voyez, leurs mots sont prudents. Le centre Carter dit, par exemple, que voilà, mais toutes les élections, c'est une élection non crédible, mais elle n'est peut-être pas de nature à à mettre en cause l'ordre d'arrivée. Bon, d'autres disent, Mounou aussi, elle n'est peut-être pas de nature à mettre l'ordre d'arrivée parce que nous n'avions pas les observateurs sur l'ensemble du territoire, nous n'étions limités que à quelques circonscriptions. Bref, nous sommes là justement dans une sorte de les mots sont pesés, les mots sont calculés, mais d'une manière générale, le mot qui ressort, c'est que le processus dans son ensemble a manqué de crédibilité et de transparence. Donc, c'est un luxe qu'on ne pouvait pas s'offrir après avoir organisé les élections en 2006. Mais j'aimerais quand même émettre un mot sur ce qu'on appelle l'église au village du village. Quand on dit une église au village du village, ça veut dire que c'est pas une église neutre, ce n'est pas une église à faune, ce n'est pas une église aveugle.
Passive.
Passive, non. L'église a un rôle à jouer. Moi, je ne dis pas ici, d'abord, je ne prends pas position pour par exemple, pour Mosengo ici. Mais je dis ceci, l'église doit être au service de la justice et de la vérité. Si Mosengo pense que lui, la justice et la vérité n'étaient pas conformes à lui, c'est son point de vue, il n'a qu'à l'étayer. Mais l'église doit
pas... Et vous pensez que les contextes étaient bons pour donner ce genre d'informations?
Si c'est sa conviction profonde, oui, au nom de la vérité et de la justice. Parce qu'il n'y a aucune chose sur la terre qui soit supérieure à la vérité, à la justice et à l'amour. Et donc, moi, je pense que ce sont des valeurs cardinales qu'on défend. Donc, c'est vrai que maintenant, il a aussi en face de lui un autre monseigneur qui a repris mot à mot. Tu vois, là maintenant, c'est pas sérieux parce que là c'était les guidés, ça saute aux yeux que il a été pistonné. Mais il faudrait que les hommes d'église entre guillemets prennent parole en âme et conscience. L'Église catholique, on ne peut pas lui reprocher. Tout au long du processus, c'est-à-dire depuis 2007-2008, elle a toujours élevé le ton pour dire que nous sommes dans une mauvaise direction, elle prend position.
Mais on ne peut pas non plus empêcher à l'église protestante de mettre son point de vue.
Non, son point de vue, ça veut dire que ça saute vraiment aux yeux que c'est un point de vue vraiment téléguidé, parce que tout au long du processus, elle s'est tue, elle a attendu que Monseigneur fasse une déclaration pour qu'elle fasse la sienne. C'est pas sérieux.
Magloire Paloukou, à quel moment peut-on affirmer que les faits dénoncés ont un impact réel sur le processus et peuvent donc entacher sa régularité?
D'abord, permettez-moi de faire une différence entre Mosengo, la personne, et l'Église catholique. Puisque l'Église catholique s'était déjà prononcée, bon, entre les lignes, avant les déclarations de cardinal Mosengo. Et si nous tous qui avons vécu quand même à Kinshasa, nous connaissons l'histoire de Mosengo depuis 90, c'est un homme qui est toujours opposant personnel, donc pas l'Église. On ne peut pas dire que l'Église se reconnaît à Mosengo et que Mosengo incarne impérialement toute l'Église. Alors, pour revenir à la question...
À la question, oui.
Non, ça veut dire, tout ce que les observateurs ont dit, il y a un dénominateur commun, et ce que nous avons couvert comme journalistes, ce qu'on a vu partout, un dénominateur commun, ce qu'il y avait quand même un désordre, des irrégularités, et tout le monde ne le nie pas. Mais au moment de le dire, et où le dire, quand le dire, c'est ça qui pose problème. Ce n'est pas n'importe qui doit se lever. Je suis content du confrère du Forum des As
et celui
de Joopolis.
Israël Montala.
Je viens de dire, à un certain moment, nous tous, il fallait mieux faire. Mais comme on a mal fait, faut-il rester là, en train de nous injurier, de nous lamenter, pour ne pas voir ce que l'ambassadeur des États-Unis, par exemple, a fait avec la réunion avec le Premier ministre, pour dire, prochainement, en 2016, on va vous aider techniquement pour que ceci ou cela ne revienne pas. Le moment de dire les choses, pendant qu'il y avait une implosion à Kinshasa, ça c'est quand même dangereux de donner une critique, surtout les autres observateurs ont été à la fois vagues et corrects.
Merci. Marcel Mandokila, à votre avis, ces rapports pourraient avoir quelle incidence sur la suite du processus électoral?
Bon, je me pose des questions, parce que quelque part, eux-mêmes, les observateurs disent que les solutions, ça, c'est les acteurs politiques
congolais. Ils ne proposent rien.
Et les institutions. Aucune proposition. Ils se limitent à relever le problème Et puis pour lui, bon, pour la solution, écoutez, c'est votre pays, essayez de vous organiser. C'est comme ça qu'il y en a qui appellent à des négociations. Ben, est-ce que ça va nous aider à avancer pour autant? Je n'en suis pas si sûr.
À votre avis, Israël Moutala, l'incidence sur le processus démocratique au Congo de ces rapports?
L'incidence, c'est que voilà ce qu'on a. Nous sommes un pays qui a souffert de la crise de légitimité. Or, le président qu'on aura à l'issue de ce processus sera au mieux mal élu, au pire non élu. Voilà les deux conséquences. C'est-à-dire que, et c'est dommage, on pouvait se passer d'un tel spectacle. Voilà, dans la confusion, la tête, les gens sont confus. Donc, il n'y aura pas de certitude sur le vainqueur de cette élection. Et c'est dommage.
Notre deuxième thème, dernier thème de ce soir, Léon Kengo Wadondo, Antipas Mbusa Nyamwesi et Adam Bombolé, 3 des 11 candidats présidents de la République demandent l'annulation des élections du 28 novembre dernier, compte tenu des irrégularités constatées. Ils proposent des concertations politiques pour la mise en place d'un gouvernement de transition. Dans une déclaration conjointe rendue publique mercredi dernier par leur mandataire au cours d'une conférence de presse, les trois candidats proposent aussi la concertation des acteurs politiques pour un gouvernement de transition et la médiation ainsi que l'accompagnement de la communauté internationale pendant les nouveaux processus. La déclaration des trois candidats est lue par le professeur Michel Bongongo au micro d'Onésime Mukandila.
Eu égard aux nombreux manquements et irrégularités constatés dans les résultats présentés par la CENI, proposons à la nation congolaise ce qui suit. L'annulation des élections présidentielles et législatives, la concertation des candidats à l'élection présidentielle, des leaders de la classe politique et de la société civile dans le but d'élaborer un calendrier réaliste pour l'organisation de nouvelles élections démocratiques, transparentes et crédibles. La mise en place d'un gouvernement de transition, l'engagement à prendre par les membres de ce gouvernement de transition de ne pas être candidat à ces élections. La médiation et l'accompagnement de la communauté internationale tout au long de ce nouveau processus.
Magloire Paloukou, vous êtes directeur général des radios Kivu 1, c'est une radio qui émet depuis la ville de Goma au nord Kivu. L'annulation des élections et les concertations en vue de la mise en place d'un gouvernement de transition, comment vous analysez cette proposition?
Bien, franchement, c'est difficile de se retenir quand on écoute les trois candidats proposer des inepties pareilles. Vraiment, le ridicule ne tue pas.
Les mots n'est-il pas dur?
Non, mais les élections ont une forme juridique. Les élections ont une forme constitutionnelle de l'État. Quand elles ne sont pas acceptées, et bien sûr pour les faire annuler, ce n'est pas par la presse, ce n'est pas par des discours, ce n'est pas en faisant un clin d'œil à la communauté internationale. Je pense que c'est juste un spectacle médiatique qui s'est passé encore. Bon, je pense que c'est un événement qui nous a permis à écrire, à analyser, à avoir des éléments à diffuser, mais sincèrement, c'est un coup d'épée dans l'eau, hein. Qui va les faire, qui va les annuler? C'est ça la question.
Merci. Marcelin Manokila, vous êtes directeur des rédactions au quotidien Forum des As, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Les propositions de ces trois candidats à la présidentielle, est-ce un spectacle médiatique, comme le dit Magloire Paloukou?
Là-dessus, je voudrais relever deux choses. La première, c'est que lorsqu'on annule les élections, là où tout le monde s'accorde à dire que malgré qu'il y ait des irrégularités, ça ne remet pas en cause l'ordre des résultats présentés par la CENI, il y a tout de même un problème. Et il y a un autre problème, c'est que lorsqu'on annule, il y a risque de retomber dans la transition. C'est comme ça que certains proposent des négociations. Là aussi, je me pose des questions. Un gouvernement de transition, ça vous est-il quoi? C'est le partage du pouvoir qu'on a vu à l'époque, équitable et équilibré. Mais si ce gouvernement de transition n'a pas l'accord de l'UDPS. On n'aura pas résolu la crise. On connaît ce qui s'est passé à l'époque. L'UDPS ne fera que diaboliser tous ceux qui seront partis dans ce gouvernement. Kengo, Kamere et Moussa. Donc on n'aura pas pour autant résolu la crise. Ça, c'est vraiment un problème sérieux que...
Marcelin Mandokila, ces trois candidats n'ont-ils pas raison en proposant ces schémas, surtout lorsqu'ils justifient cela par l'intransigeance, le jusqu'au boutisme des deux candidats, le candidat numéro 3 et le candidat numéro 11, qui se considèrent chacun comme étant les vainqueurs de ces élections?
Annuler cela voudrait dire, en fait, pour que ce schéma marche, il faut qu'on annule les scrutins. Mais les gens qui parlent d'un gouvernement de transition, on n'a pas encore les résultats de la députation nationale. On devrait focaliser l'attention vers là, pour dire maintenant, ouvrons l'œil, qu'il n'y ait pas assez d'irrégularité, pas assez de fraude dans les dépouillements, etc., pour qu'on ait des députés qui soient plus ou moins correctement élus et avoir un bon parlement. Mais les gens prennent des raccourcis, parce que, vous savez, pour l'UDPS, quand Kengo, Moussa et Adabo Mbole proposent ce schéma, si jamais ils entrent au gouvernement, ils diraient quoi? Ils diraient Kengo, c'est le président du Sénat, c'est normal. Moussa, c'était un ministre Kabila. Adabo Mbole, c'était un dissident de UMLC. Donc, ça ne sera pas vraiment crédible. Je ne sais pas. Moi, je crois que, quel que soit ce qui est arrivé, il y a quand même moyen de sauver la face. On ne doit pas quitter les processus électoraux. Sinon, nous retombons dans la transition et on n'en sortira plus jamais maintenant.
Israël Moutala, vous êtes journaliste au magazine économique Géopolis. C'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Une certaine opinion pense que c'est une démarche enclenchée par des candidats qui ne savent pas perdre, des candidats qui ne savent pas agir comme des sportifs, donc accepter avec fair play leur échec.
Dans une certaine mesure, oui. Dans une autre mesure, non. Mais moi, je pense que fondamentalement, la résolution de la crise dans laquelle nous sommes passe par une paix de braves entre Tshisekedi et Kabila. Donc, c'est la synthèse de ces deux forces qui va donner la paix à ce pays.
Et c'est-à-dire qu'il faut que les deux candidats se fassent mutuellement des concessions.
Il faut que les deux candidats se fassent mutuellement des concessions.
Et le scénario possible, à votre avis, c'est quoi?
Le scénario possible, bon voilà, ça veut dire que pour un scénario réaliste, ça veut dire que d'abord sur le plan des élections, si nous allons à un récomptage de voix, là où ça a posé problème, parce qu'on entend par exemple, il a été démontré que ce vote a comporté une certaine dimension sociologique, une certaine dimension tribale, une certaine dimension ethnique. Bon, on nous a toujours fait, on nous a toujours dit que au Katanga, par exemple, il y a une forte communauté kassayenne. Mais quand on voit les résultats, par exemple, qu'a obtenu Tshisekedi au Katanga, c'est des résultats dérisoires. Où sont partis les kassayens dans cette province-là. Et voilà.
Il n'est pas dit que tout kassayen
oui,
qui habite
ça.
Le Katanga
tout à fait.
Doit nécessairement voter pour
Tshisekedi. Bien sûr, il n'est pas dit ça. Bien sûr, il n'est pas dit ça. Mais je suis en train de montrer là où on a dit, par exemple. Parce que dans les rapports, on dit, effectivement, que, par exemple, que le taux de participation était plus fort dans certains que dans d'autres. Donc, d'abord, on annule pas l'ensemble de l'élection, mais là où ça pose problème. Mais moi, je pense que c'est une solution qui sera difficile à mettre en œuvre, qui sera parce qu'elle va demander de l'argent. Mais bon, ou bien les résultats restent en l'état. Et que, par exemple, Tshisekedi occuperait, par exemple, un poste de son choix. Ça veut dire, par exemple, être Premier ministre avec tous les pouvoirs. Mais ici, justement, à l'UDPS, on dit que la tendance qui se dessine à l'Assemblée nationale est une tendance de l'opposition qui aurait la majorité absolue. Donc ça ne ferait pas une concession de Kabila au cas où l'opposition gagnerait les élections législatives. Donc moi je pense que si concession il doit y avoir, c'est à l'issue des élections législatives, on évalue l'ensemble du processus électoral et si Kabila à la majorité également à l'Assemblée nationale pour la paix, je pense que là en tout cas, qu'il fasse taire les extrémistes de son camp, que le président Tshisekedi fasse taire aussi les extrémistes de son camp, que nous trouvions une synthèse. Moi, j'aimerais que Kabila et Tshisekedi puissent penser aux 42 millions de Congolais qui n'ont pas voté, parce qu'il n'y a que 18 millions qui ont voté. D'abord, il y a eu 32 millions d'enrôlés, 18 millions sont allés voter, mais il y a 42 millions qui, il y a même plus, parce qu'on est, si j'estime qu'on est 70 millions d'habitants, il y a 42 qui n'ont pas voté. Ils ont besoin de pain, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de soins médicaux, ils ont besoin d'éduquer leurs enfants. Le Congo est une belle histoire, est une belle aventure, conservons-la par un surpassement des deux candidats, Tshisekedi et Kabila.
Magloire Paluku, le schéma proposé par les trois candidats, Léon Kendongo Adondo, Adam Bombolé et Antipas Mboussa Nyamwesi, ce schéma pourra-t-il aboutir? Sinon, qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin à cette crise?
De toute façon, Guy Maté, en République démocratique du Congo, notre constitution donne beaucoup de valeur, beaucoup de prérogatives au Premier ministre. Et comme on commence déjà à connaître à peu près les députés qui vont aller à l'hémicycle à Kinshasa, la configuration commence à se dessiner. Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une majorité à l'Assemblée qui est côté opposition. Est-ce que celui qui gagne la présidentielle sera un jour obligé de composer pour faire passer des lois, pour faire passer ceci, ce que le dessin, la configuration du futur gouvernement sera connu après. Aujourd'hui, les propositions qu'on donnerait seraient peut-être anticonstitutionnelles, mais le Premier ministre qui viendra, qui sera là, sera lui capable de travailler avec plein pouvoir, même si le président est à côté. Je pense que c'est dans le futur qu'on le saura, et qu'avec qui composer. Vous savez, il s'est passé des histoires à Kinshasa, avec les députés de la majorité et de l'opposition, où pour faire passer une loi, il a fallu soudoyer, payer par-ci, payer par-là. Donc, avec la configuration actuelle qui se dessine, on voit peut-être ici que l'UNC de Vital Kamerhe, qui a déjà à peu près trois candidats, même si je le dis comme ça, mais c'est que, bon, ça va se dessiner à l'Assemblée nationale, je pense.
Marcelin Mandokila, le mérite de cette démarche n'est-il pas celui de dire tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas?
Quelle démarche?
La démarche est proposée par Léon Kendongo Adondo, Adam Bombolé et Antipas Mboussa Nyamwesi.
Non, là je voudrais relever quelque chose. Les opposants ont été incapables de se mettre d'accord autour d'un seul programme ou d'un seul candidat pour la présidentielle. Ils sont allés en ordre dispersé. Mais d'où vient que maintenant, subitement, ils ont l'Esprit Saint pour commencer à parler le même langage en termes de contestation?
Bon, ah oui. Maintenant, ils estiment qu'ils ont des intérêts communs.
Non, c'est justement une guerre de repositionnement. Peut-être ce sont les garanties qu'on avait demandées à Tshisekedi avant, que je sois président du Sénat, moi Premier ministre, qui n'avait pas obtenu, qui cherche à avoir d'une autre manière aujourd'hui. Mais, je le répète, on ne doit pas sortir du processus électoral. Attendons le résultat de législatif, et après, on pourra également voir dans quelle direction on pourra aller.
Israël Moutala, le mérite de cette démarche?
Non, le mérite de cette démarche, ça veut dire que je vois pas, nous sommes dans un régime tantôt semi-présidentiel, tantôt semi-parlementaire. Ça veut dire que quand le chef de l'État n'a pas de majorité, nous sommes dans un régime semi-parlementaire et le vrai patron de la République, c'est le Premier ministre. Donc si aujourd'hui Kabila est privé d'une majorité à l'Assemblée nationale, en tout cas, il sera là pour inaugurer le chrysanthème. Donc, ne faisons pas de la présidente de la République, justement, une focalisation, une fixation. Donc, les pouvoirs sont détenus par la majorité de l'Assemblée nationale et c'est là que va se déterminer l'avenir du pays.
Mais il faut rappeler que c'est un régime semi-présidentiel.
Non, ça
et
veut dire que
le chef de l'État a aussi...
Il a quelques prérogatives. Voilà. Ça veut dire que quand surtout il a la majorité, nous sommes presque dans un régime présidentiel. Mais quand il n'a pas la majorité de l'Assemblée nationale, nous sommes presque dans un régime semi-parlementaire. Bon, on va faire un débat constitutionnel plus tard. Mais je pense que le Congo sera sauf de cette crise.
Merci, c'est la fin de cette émission. Nous étions avec Israël Moutala du magazine Géopolis, Marcelin Mandokila de Forum des As et Magloire Paluku de la radio Kivu 1. Sylvain Matundu était à la technique, Samuel Kachak à la réalisation sous la supervision de Pele Kipela Mondo. Devant ses micros, Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.